Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
La dernière fois que nous avons échangé, nous étions sur la circoncision. Nous avons parlé des mystères de l'enfance de Jésus et je me souviens que tu avais tout spécialement le désir que nous revenions sur la circoncision. Et puis, donc, c'était 527 dans le catéchisme, et puis 528, l'épiphanie, 529, la présentation au temple, la fuite en Égypte, au paragraphe 530. Une question que nous pourrions nous poser, la prière du rosaire nous fait reprendre les mystères joyeux qui nous emmènent dans l'enfance de Jésus, même en dehors du temps de Noël. Nous pourrions nous dire, ça n'a pas sa place, pourquoi reprendre les mystères joyeux en dehors du temps de Noël, ou de manière générale, pourquoi, hors du rosaire d'ailleurs, faire référence éventuellement à ces mystères de l'enfance. Ça pourrait sembler une question. Est-ce hors propos? Est-ce que c'est un petit goût de du côté joli de
ces mystères d'enfance?
Nostalgique.
Comme on aime bien de nos jours. Non, je crois que la réponse est au numéro 526. Il s'agit de devenir un enfant par rapport à Dieu. C'est la condition pour entrer dans le royaume. Et c'est pour cela que l'on reprend toujours les mystères joyeux avant les mystères lumineux, les mystères douloureux, les mystères glorieux dans le rosaire, pour passer, je dirais, par ce mouvement d'abaissement intérieur. L'homme est malheureusement dévié par le péché originel. Il a un foyer du péché en lui qui le pousse toujours vers un ailleurs que le royaume. Et cet ailleurs, c'est souvent l'orgueil, la disproportion, la démesure. Et l'homme a sans cesse besoin de repasser par, je dirais, dans la porte étroite, celle que le Seigneur a lui-même ouverte pour nous. Et c'est le numéro 520 que nous avions déjà évoqué. Jésus se montre comme notre modèle. Il est l'homme parfait, disait le Concile Gaudium et Spes, non pas dans le sens seulement d'une perfection morale, mais complet, comme disait le Concile de Chalcédoine. Jésus a voulu tout assumer ce que nous sommes, mais assumer tout ce que nous sommes de bon. Il n'est pas venu pour faire une rédemption du péché, mais de l'homme pécheur. Et il a assumé donc un homme complet, parfait, pour nous aider à revenir à la maison du Père. Et pour cela, je dirais, son chemin, sa vie, est à notre disposition comme un trésor pour marcher, pour avancer. L'imitatio Christi, dont nous avions parlé la dernière fois, c'est une sequela Christi, c'est un suivre Jésus sur ce chemin. Et ce chemin passe par Bethléem, passe par cette incarnation dans la petitesse, et passe aussi par des événements que Dieu donne avec bonté pour que nous ne nous décourageons pas sur ce chemin d'abaissement. C'est l'épiphanie, par exemple. L'épiphanie, c'est une manifestation de gloire. C'est une manifestation qui a lieu non seulement avec les mages venus d'Orient, qui sont des païens, qui viennent reconnaître la majesté, la grandeur de Jésus, mais aussi les noces de Cana, la multiplication mystérieuse de ce vin à partir de l'eau. Et il y a aussi le baptême de Jésus, qui est une descente dans l'eau du Jourdain pour un relèvement de toute l'humanité, avec la descente de l'Esprit-Saint, qui est finalement un moment très charismatique. Et ces ensembles donc nous réjouissent, c'est-à-dire dans ce chemin d'humilité et d'une certaine humiliation finalement par où il faut passer, eh bien Dieu est à l'œuvre, Dieu se manifeste. Et Dieu veut finalement que nous revêtions cette dignité israélite dont on parlait, qui est celle des hommes que Dieu a appelés depuis l'origine de la première alliance. La présentation de Jésus au temple aussi, c'est un grand moment de bénédiction, puisque Siméon et Anne ne sont pas membres, je dirais, directement des officiants du temple. Siméon arrive comme un Melchisédek d'ailleurs, d'une manière très étonnante, et il bénit comme un prêtre, alors que visiblement il n'a pas l'air de faire partie des fonctions sacerdotales au moment de ce rituel du temple. Et il y a cette rencontre avec son sauveur, ce que la tradition byzantine appelle l'hypapante, la rencontre, le moment de la rencontre entre Dieu et son peuple. Et nous avons besoin nous-mêmes sans cesse de refaire ce mouvement d'entrée au temple. Lorsque nous rentrons dans une église, eh bien, pourquoi ne pas penser à cette présentation de Jésus au temple pour nous aider à prendre la mesure de ce qui advient et ainsi reconnaître la lumière des nations qu'est Jésus et la gloire d'Israël. En même temps, il y a cette alliance qui recouvre l'ensemble du dessein de Dieu sans abandonner ceux qui ont été en premier élus et dont Jésus fait partie, puisque le salut vient des Juifs. La fuite en Égypte est un moment aussi très fort. Dieu ne nous demande pas toujours d'être au premier poste, je dirais, du combat. Il nous demande parfois de limiter dans une certaine réserve, dans une certaine distance. Celui qui sait pâtir en silence, sans donner nécessairement d'explication, et qui, dans ce recul, fait le mouvement que Jésus a su faire. C'était par exemple la position du père de Foucault quand il était au désert à Tamanrasset, quand il avait quelques différends avec les méthodes suivies par l'armée française. Il se retirait. Il demandait au Seigneur d'être ainsi, comme dans la fuite en Égypte, celui qui préfère la lumière aux ténèbres, mais dont l'heure n'est pas encore venue de l'affronter d'une manière, je dirais, sanglante, frontalement. L'heure de Jésus, elle est au moment de la passion, et plusieurs fois Jésus dit avant « mon heure n'est pas venue ». Et donc il faut savoir la discerner, ne pas se précipiter, je dirais, d'une manière trop volontariste vers un affrontement qui n'est pas toujours de bonnes circonstances, dans le fond, qui n'est pas providentiel.
Il y a une sorte de principe de réalité dans ces mystères de l'enfance. Nous pourrions dire l'enfance, c'est joli, c'est joyeux, mais ces mystères de l'enfance sont empreints de gravité, au fond. Bon, la fuite en Égypte, tu disais, ne pas aller toujours au front du combat. Oui, notre combat spirituel, il faut l'assumer, mais il ne faut pas aller provoquer. Qu'on ne peut faire. La présentation de Jésus au temple, il y a la rencontre, lumière des nations, qui est le Christ pour son peuple, mais aussi signe de contradiction.
Signe de contradiction, tout à fait.
L'épiphanie, peut-être, semble-t-elle plus belle, mais c'est plus douce. Oui. Mais ceci étant, ce n'est pas sans qu'il y ait une confrontation avec Hérode, qui montre qu'il y a des choix à faire. Les mages vont voir l'enfant, mais vont devoir avoir une forte sorte de stratégie, si je puis dire.
Oui, de fait, le numéro 529 souligne le mot « signe de contradiction », qui est la parole de Siméon aux parents de Jésus. Et nous nous souvenons que parmi les trois paroles d'invitation à l'imitation que saint Jean donne dans sa première lettre, il y a « tel est lui, Jésus, tel nous sommes dans le monde ». Et Jésus a été signe de contradiction, très nettement, par rapport à bien des éléments de la vie de son époque, la vie religieuse, la vie humaine, tout simplement, où on ne faisait pas assez attention aux petits, aux pauvres, aux délaissés, et Jésus a pris un soin tout particulier de secourir, d'aider les pauvres et les petits. Donc on sent bien qu'il y a sans cesse à recreuser cet aspect des choses, à nous en nourrir, et à être ainsi dans les pas de Jésus, dans cette véritable imitation qui n'est pas matérielle, mais qui est d'esprit. C'est-à-dire, nous suivons l'esprit de Jésus en l'imitant.
Mais nous comprenons alors que ce devenir enfant, donc nous disions que méditer les mystères de l'enfance de Jésus, le Christ, à sa place bien au-delà du temps de Noël, on le comprend d'autant mieux dans cette joie de Dieu qui se fait homme pour notre salut, mais on le comprend aussi parce que ça met en avant des expériences spirituelles, des enjeux spirituels pour chacun de nous qui dépassent effectivement la simple enfance. C'est toute simple notre enfance. Vie est marquée par ce que l'enfance de Jésus nous enseigne, ce en quoi il nous édifie.
Oui, et pareil, on peut dire sur le versant de la vie cachée, comment ne pas citer cette magnifique homélie que fit le pape Paul VI le 5 janvier 1964 dans son voyage en Terre Sainte. Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus, l'école de l'Évangile, une leçon de silence d'abord, que naisse en nous l'estime du silence, cette admirable et indispensable condition de l'esprit, une leçon de vie familiale que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable, une leçon de travail. Nazareth, ô maison du fils du charpentier, c'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain, comme nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur montrer leur grand modèle, leur frère divin. C'est magnifiquement dit, c'était très émouvant ce passage à Nazareth, quand pour la première fois un pape depuis Saint-Pierre revenait à Nazareth. C'était quand même émouvant de penser ça.
Oui, en 1964,
en plein milieu du concile, et il avait rencontré le patriarche Athénagoras dans le Saint-Sépulcre, l'Anastasis des Grecs, et ils avaient échangé un baiser de paix. Et Athénagoras avait eu le geste très harmonieux, très œcuménique, de revêtir Paul VI d'un homophorion, c'est-à-dire l'étole liturgique que l'on donne normalement aux prélats, aux évêques de la liturgie grecque. Et le chœur grec s'est mis à chanter « Axios Estin », il est digne de revêtir cet homophorion. C'était un temps d'espérance énorme pour l'œcuménisme, magnifique, un temps peut-être moins fortement marqué maintenant, mais il faut toujours garder les bons moments pour maintenir le cap dans les moments plus difficiles.
Retour à l'enfance, retour au début, pour laisser grandir tout ça.
Tout cela, merci.